question. Il m'a tellement aimé qu'il a donné mon nom à un de ses fils. nous sommes aussi heureux d'être ici. J'y étais à la première retraite. Je crois que j'avais 15 ans à l'époque. Et puis, juste après notre mariage en 2000, nous sommes revenus. On s'est mariés le 23 septembre 2000 et on était à la retraite début novembre, donc on faisait célébrer un mois de mariage ici dans ce lieu. Et maintenant, ça fait, on vient de célébrer 16 ans de mariage. Et d'être encore ici de nouveau, ça nous rappelle la grâce persistante, je veux dire, la grâce continuelle de Dieu qui est toujours avec nous et qui est encore le même pour nous aujourd'hui qu'il était il y a 20 ans ou 100 ans ou 1000 ans. Donc c'est une joie pour nous d'être avec vous. Et nous allons trouver ensemble le livre d'Habacuc. Alors, la première question qui nous intéresse, c'est où se trouve Habacuc? Donc, voilà, je vous donne ici, pour vous aider, les 12 petits prophètes. Et en fait, on va les dire ensemble, pour se rappeler, pour nous aider à les retrouver. On y va. Donc, d'abord, on commence sur la gauche et puis la droite. Osée, Joël, Amos, Abdias, Jonas, Michée, Nahum, Habacuc, Zophonie, Agé, Zacharie, Malachie. Voilà, très bien. Alors, j'espère que vous allez pouvoir le trouver. Nous allons le lire dans quelques instants. Qui a lu récemment, depuis l'annonce de cette retraite, le livre d'Habacuc? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a peut-être lu? Voilà, il y a 3 ou 4. Donc pour la plupart, vous avez peut-être oublié qui il est. Il y a certains qui n'ont peut-être jamais lu même ce livre d'Habacuc. Mais nous ne connaissons en fait presque rien de son identité. Mais en lisant ce livre, nous avons une idée assez précise de son caractère. Je vais essayer de parler fort, parce qu'on m'a dit qu'hier soir, on n'entendait pas tout, donc s'il faut que je parle plus fort, vous allez me faire signe, Mathieu, tu me fais signe depuis d'ailleurs. Nous voyons dans ce livre que c'était quelqu'un qui avait une relation intime avec Dieu. On le voit au premier chapitre, verset 12, et puis surtout à la fin du chapitre 3. Et qui avait aussi une confiance remarquable dans le Seigneur. Mais qui, c'est ça qui le rend intéressant pour nous, dans cette relation de confiance avec le Seigneur, il sentait la liberté de pouvoir poser des questions, même questionner la volonté et les choix de Dieu. Alors, un mot avant de continuer sur l'orthographe de son nom. Il me semble que les premiers traducteurs au temps de la Réforme, c'est-à-dire Martin Osterwald, l'ont épelé Habacuc avec C-U-C. Parce que c'est un nom hébreu, il faut le rendre en français, il faut faire quelque chose avec. Et donc, les traductions Parole de Vie, Bible en français courant, la Nouvelle Bible Seconde, suivent leur exemple, qui est le plus ancien en fait, des traductions en français. Et je crois que c'est le Louis Seconde, en 1910, qui a introduit cette deuxième façon de faire avec des cas. Et donc, la nouvelle édition de Genève, second 21, suivent cet exemple. Et finalement, on trouve en français aussi, dans la Bible du Semeur, cette troisième option. Voilà, vous pouvez le faire comme vous voulez. Vous n'allez pas faire de faute parce qu'il y a toutes les options possibles. Alors, quand est-ce que Habacuc a écrit, quand est-ce qu'il a vécu? Ça aussi c'est important parce que le message d'Habacuc est un message qui est très lié à son époque. Comme nous sommes tous des personnes qui sont liées à notre époque. Nous devons vivre ce qui se passe autour de nous. Et l'indice qui nous aide à placer ce livre dans son contexte historique se trouve dans le chapitre 1, verset 6, où Dieu lui dit, voici, je vais susciter les Chaldéens. Alors, quand vous entendez Chaldéens, faut penser à qui? Vous l'avez, dans certaines traductions, ils le mettent un autre nom, c'est qui? C'est une ville qui commence avec B, ou les Babyloniens, voilà. Donc, quand Dieu dit, je vais susciter les Babyloniens, ou les Chaldéens, nous sommes donc avant la conquête de Jérusalem par Babylone. Alors, Jérusalem a été attaquée 3 fois par cette ville et par cette armée. La première fois dans l'année 605 avant Jésus-Christ. Cette première fois, elle ne détruit pas la ville. En fait, elle prend à peu près 10 000, je crois, prisonniers, surtout de la noblesse, pour les ramener à Babylone, pour les éduquer à leur manière. Et qui fait partie de ce groupe? Moi, je crois que je l'ai même marqué. C'est Daniel et ses amis. On est ramenés donc à Babylone et nous avons l'histoire après de Daniel. Mais à cause de l'insoumission du roi de Jérusalem, Nebuchadnezzar revient 8 ans plus tard, on est dans l'année 1597, parce qu'avant Jésus-Christ, donc, les années déroulent à l'envers. Et là, il prend le roi lui-même, il le prend captif à Babylone et il remplace par un autre. Je crois que c'est son cousin qui le fait roi. Mais malheureusement, dans leur rébellion obstinée contre l'Éternel, et ceci malgré le fait que nous avons des prophètes comme Jérémie qui n'a cessé de leur dire de se soumettre à Babylone, ils se sont de nouveau rebellés contre la ville de Babylone et contre le roi. Et donc, comme on dit en français, il n'y a jamais 2 sans 3, et le roi revient. Et cette fois-ci, c'est pour de bon. Il y a un très long siège de la ville, et ça se termine dans la destruction totale de la ville. Le temple même de Salomon est détruit. Presque toute la population est amenée dans la région de Babylone. Et nous sommes dans l'année 587. Alors, tout cela se passe après, en fait, la rédaction de ce livre d'Habacuc. Mais elle fait partie intégrante de son histoire, car à partir de chapitre 1, verset 6, où Dieu les nomme distinctement, Dieu décrit l'arrivée des Babyloniens, et c'est à cela qu'Habacuc doit faire face. Et nous savons tous par expérience que souvent le futur est aussi difficile pour nous que le passé. Se faire face à quelque chose qui va arriver nous donne plus de peur et d'effroi que ceux qu'on a déjà vécu. Et donc cela explique mon titre pour ce premier chapitre, le culte dans le tumulte, ou l'adoration dans la consternation, si vous aimez le rime. J'ai fait ça pour Anne, parce qu'elle apprécie. Alors, notre texte se décline en 3 parties. Nous avons une prière d'Habacuc, les premiers 4 versets. Et puis nous avons la réponse de Dieu, versets 5 à 11. Et puis nous avons la deuxième prière d'Habacuc. Alors, qui pourrait se lever et lire à haute voix, bien fort, ce premier chapitre? Est-ce que j'ai un volontaire? Ok. David, ta femme t'a suggéré. Merci.
Alors, Habacuc, chapitre 1, verset 1 à 4. Oracle révélé à Habacuc, le prophète. Jusqu'à quand, ô Éternel, j'ai crié, et tu n'écoutes pas? J'ai crié vers toi à la violence, et tu ne secours pas. Pourquoi me fais-tu voir l'iniquité? Et contemples-tu l'injustice? Pourquoi l'oppression et la violence sont-elles devant moi? Il y a des querelles et la discorde s'élève. Aussi la loi n'a-t-elle point de vie? La justice n'a-t-elle point de force? car le méchant triomphe du juste et l'on rend des jugements iniques. Jetez les yeux parmi les nations. Regardez et soyez saisis d'étonnement, d'épouvante. Car je vais faire en vos jours une œuvre que vous ne croiriez pas si on la racontait. Voici, je vais susciter les Chaldéens, peuple furibond et impétueux, qui traverse de vastes étendues de pays pour s'emparer de demeures qui ne sont pas à lui. Il est terrible et formidable. De lui seul viennent son droit et sa grandeur. Ses chevaux sont plus rapides que les léopards, plus agiles que les loups du soir, et ses cavaliers s'avancent avec orgueil. Ses cavaliers arrivent de loin. Ils volent comme l'aigle qui fond sur sa proie. Tout ce peuple vient pour se livrer au pillage. Ses regards avides se portent en avant. Et il assemble des prisonniers comme du sable. Il se moque des rois. Et les princes font l'objet de ses railleries. Il se rit de toutes les forteresses. Il amoncelle de la terre et il les prend. Alors son ardeur redouble, poursuit sa marche et il se rend coupable. Sa force à lui, voilà son Dieu. N'es-tu pas de toute éternité éternelle, mon Dieu ? Mon saint, nous ne mourrons pas. Ô Éternel, tu as établi ce peuple pour exercer tes jugements. Ô mon rocher, tu l'as suscité pour infliger tes châtiments. Tes yeux sont trop purs pour voir le mal, et tu ne peux pas regarder l'iniquité. Pourquoi regarderais-tu les perfides et te tairais-tu quand le méchant dévore celui qui est plus juste que lui? Traiterais-tu l'homme comme les poissons de la mer, comme le reptile qui n'a point de maître? Il les fait tous monter avec l'hameçon. Il les attire dans son filet. Il les assemble dans ses raies. Aussi est-il dans la joie et dans l'allégresse. C'est pourquoi il sacrifie à son filet. Il offre de l'encens à ses raies, car par eux, sa portion est grasse et sa nourriture succulente. Videra-t-il pour cela son filet et toujours égorgera-t-il sans pitié les nations?
C'est bon. Oui, tu peux lire le premier verset de...
J'étais à mon poste et je me tenais sur la tour. Je veillais pour voir ce que l'Éternel me dirait et ce que je répliquerais après ma plainte.
Ah, merci. Alors, quoique plusieurs des livres prophétique dans la Bible nous donne un Dieu qui parle à un peuple incrédule. Nous avons la parole de Dieu face à un peuple incrédule. C'est le cas d'Ésaïe, c'est le cas de Jérémie par exemple, où Dieu parle mais le peuple ne veut pas croire. Ici dans Habacuc, nous trouvons un prophète, un serviteur de Dieu qui est fidèle, qui est croyant face à la parole de Dieu. Ce n'est pas quelqu'un au cou raide qui refuse d'écouter ou de croire à la parole de Dieu. C'est un vrai croyant. C'est quelqu'un qui demande à Dieu d'intervenir, qui désire voir la main de Dieu dans sa vie, dans sa nation. qui veut se soumettre à la volonté de Dieu, qui ne doute pas de la puissance de Dieu, ni de sa sagesse, ni de sa bonté. Et donc, il n'y a vraiment rien à reprocher à cet homme. C'est donc un échange, on va dire, très intime entre un serviteur de Dieu et son Dieu. Et c'est ça qui le rend intéressant pour nous. Si vous êtes ici aujourd'hui, vous êtes, j'imagine, quelqu'un qui vous désirez voir la main de Dieu. Vous priez à Dieu, vous lui demandez d'intervenir. Vous ne refusez pas la parole de Dieu. Donc, on peut s'identifier dans ce sens à ce prophète. Mais nous voyons que c'est un enfant confus, quoique confiant. Il est perplexe, quoique patient. Et il est troublé aussi, quoique soumis. On voit ces réalités qui semblent être contradisantes les unes des autres, qui sont quand même réelles dans sa vie. C'est un croyant qui fait face à une opposition entre ce qu'on voit et ce qu'on croit. On a dit tout à l'heure, la foi c'est de voir sans croire, mais le problème c'est de croire quand on voit autre chose. Une contradiction apparente entre ce qu'on voit d'un côté et ce qu'on croit de l'autre côté. C'est son problème. J'imagine que vous avez connu aussi ce dilemme. Et c'est une des raisons, comme j'ai dit, pour laquelle ce livre nous parle encore aujourd'hui, parce que nous sommes encore confrontés à cette opposition entre ce que nous voyons et ce que nous croyons. La foi est souvent présentée comme la monnaie avec laquelle on achète du magasin divin. Hein, si vous voulez une nouvelle voiture, il vous faut X euros en foi. Il faut beaucoup de foi. Si vous voulez des enfants, il vous faut encore plus de foi. Si vous voulez la vie tranquille, ben il vous faut encore plus de foi. Si vous voulez être guéri, ben il vous faut telle quantité de foi. La foi, pour beaucoup, est présentée comme la monnaie avec laquelle on achète la vue. Mais en fait, la foi n'est pas la vue. C'est comme si on disait, j'aime bien la patience qui dure une seule minute. Ben, c'est plus la patience qui ne dure pas longtemps. Et la foi, quand elle devient la vue, n'est plus la foi. Et donc nous devons vivre en tant que chrétiens toute notre vie dans ce dilemme de croire ce qu'on ne voit pas. De croire ce qui semble même contredire ce que nous voyons. Alors regardons encore cette première prière d'Habacuc. Oracle révélé à Habacuc le prophète. Écoutez ce qu'il dit à l'Éternel, verset 2. Jusqu'à quand, ô Éternel? J'ai crié, et tu n'écoutes pas. J'ai crié vers toi à la violence, et tu ne secours pas. Pourquoi me fais-tu voir l'iniquité? Contemples-tu l'injustice? Pourquoi l'oppression et la violence sont-elles devant moi? Il y a des querelles et discordes s'élèvent aussi. La loi n'a point de vie, la justice n'a-t-elle point de force? Car le méchant triomphe du juste et l'en rend des jugements iniques. Alors ici nous voyons en premier lieu donc le juste face à ce qu'on va appeler l'inaction de Dieu, le silence de Dieu. Et nous voyons dans ces versets que le prophète décrit le peuple d'Israël parmi lesquels il vit. On a souvent tendance à penser que notre époque c'est la pire des époques en tant que morale et mœurs. Mais c'est pas forcément le cas. L'homme est pécheur depuis Adam. Et notez le mot qu'il utilise pour décrire sa société au verset 3. L'iniquité, l'injustice, l'oppression, la violence, des querelles, la discorde. 6 mots, assez forts. Et puis au verset 4, il dit que la loi n'a point de vie, que la justice n'a point de force, que le méchant triomphe du juste, et que l'on rend des jugements iniques. Alors ce ne sont pas des mots tirés de nulle part. Il décrit sereinement et avec justesse la société à son époque. Et en fait, dans un sens, ce n'est que le juste, celui qui est en relation avec le seul Dieu, le vrai et le juste, qui peut correctement évaluer la société dans laquelle il ou elle vit. Hein, il y a des gens qui essayent de dire, bon, le problème de notre société, c'est ceci, c'est cela. En fin de compte, ce n'est que le juste, celui qui connaît la Bible, qui connaît la révélation de Dieu, qui peut nous dire ce qu'est le problème. Mais où est Dieu dans ce tumulte? Où voyons-nous sa main à l'œuvre? Où? Eh oui, c'est ça le problème. Regardez le verset 2. Jusqu'à quand, ô Éternel, j'ai crié, et quoi? Tu n'écoutes pas. J'ai crié vers toi à la violence, et tu ne secours pas. La prière ouvre avec cette cri de détresse. Jusqu'à quand, ô Éternel? C'est comme s'il ne sait plus lui-même s'il va tenir le coup. C'est comme si c'est important pour lui de savoir quand viendra la fin de ce silence divin, quand Dieu interviendra, quand il y aura finalement un peu de soulagement. Alors est-ce que vous avez posé cette même question à Dieu? Dis-moi, jusqu'à quand dois-je supporter telle ou telle situation? Jusqu'à quand, ô Éternel? Quelque chose doit changer, sinon je craque. Je ne peux plus supporter ce qui m'arrive. C'est ça le cri de ce prophète. Il dit deux fois dans le verset 2, regardez-le, j'ai crié. Il prend sa situation devant Dieu, il crie à Dieu, il le supplie de lui répondre, et quelle est la réponse de Dieu? C'est comme vous, hein? Vous faites comme Dieu, vous êtes silencieux. Il dit, tu n'écoutes pas, là j'espère que vous m'écoutez au moins. Il dit, j'ai crié et tu n'écoutes pas, j'ai crié vers toi à la violence. C'est-à-dire, il crie à la violence comme on crierait, au feu, au feu! C'est comme si on appelait les pompiers, ils refusent de venir. Il dit, moi je crie à la violence et tu ne secours pas. Il semble que Dieu a fermé ses oreilles, il dit, tu n'écoutes pas, et qu'il a croisé les bras, il dit, tu ne secours pas. C'est comme s'il prie vers un ciel d'airain. Aucun signe de vie, aucun avis de réception. On aimerait parfois, non? Au moins avoir ça, on prie. Dieu envoie même un avis de réception. Comme ça, je sais que tu m'as écouté, que tu réfléchis, que tu me diras plus tard la réponse. Mais on ne sait même pas si la prière est arrivée devant le trône de Dieu. On se demande, parce qu'il n'y a aucun signe de sa part. Voici le juste, donc, face à l'inaction de Dieu. Quand nous rencontrons Habacuc, il est dans un piètre état. Il a la voix enrouée à cause de ses cris, mais il ne reçoit en retour qu'un silence assourdissant. Rien de la part de Dieu. Alors, avez-vous, en tant que chrétien, connu cette frustration face à l'inaction de Dieu? Soyez honnêtes. Et si oui, ben je vous dis de prendre courage par le simple fait que vous n'êtes pas le seul ni le premier. Les prophètes ont connu ce dilemme. Et 1 Corinthiens 10, 13 nous dit, vous connaissez ce verset, que les tentations qui vous ont assaillis sont communes à tous les hommes. D'ailleurs, Dieu est fidèle et il ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Au moment de la tentation, il préparera le moyen d'en sortir pour que vous puissiez y résister. John Owen, qui est un prédicateur du XVIIe siècle en Angleterre, il a dit, la tentation est comme un couteau qui peut couper soit la viande, soit la gorge d'un homme. Ça dépend ce qu'on fait avec. Elle peut être soit sa nourriture, soit son poison, son exercice ou sa destruction. Donc, confronté face à l'inaction de Dieu, c'est une épreuve. Et nous pouvons l'utiliser soit pour notre exercice et notre croissance dans la foi, soit pour notre destruction. C'est comme un couteau qui est très utile et très dangereux au même temps. Et c'est à nous, en tant que chrétiens, de faire bon usage de ces tentations et de ces difficultés. La question donc qui nous confronte, c'est le juste, que fait-il face à l'inaction de Dieu? Que fait-il? Alors, où est Habacuc quand nous le rencontrons pour la première fois? Alors, c'est vrai qu'il parle du passé quand il dit au verset 2, j'ai crié, mais que fait-il ici? Que fait-il là quand nous le trouvons au début de ce chapitre? Est-ce que ces cris sont une chose du passé? Oui ou non? Nous sommes en train de lire encore son cri à Dieu. Il est encore ici en train de prier. Et voyez-vous la preuve ici de ce que fait le juste face à l'inaction de Dieu? Il dit deux fois, j'ai crié, ça suggère qu'il avait persévéré dans la prière, mais quand nous le trouvons, il est en train de crier de nouveau à Dieu. Il est encore devant la face de Dieu. Donc quand nous rencontrons Habacuc pour la première fois, il n'est pas derrière la chaire en train de prêcher, il n'est pas dans la rue, il est dans sa chambre, il a fermé sa porte, il prie son père qui est là dans le lieu secret, comme dit Matthieu 6, verset 6. C'est comme si on lisait son journal intime ici. Nous le trouvons seul devant Dieu. Et tout ce livre, en fait, n'est autre qu'un récit d'une conversation entre un homme face à son Dieu. Tout ce livre est très privé. C'est très individuel entre un homme, un seul être, et son Créateur et son Seigneur. Donc face à l'inaction de Dieu, il persévère dans la prière. Jésus a dit en Matthieu 7 et verset 7, « Demandez, et l'on vous donnera, cherchez et vous trouverez, frappez et l'on vous ouvrira, car quiconque demande reçoit, celui qui cherche trouve, et l'on ouvre à celui qui frappe. » Et Habacuc est un exemple de cela. C'est quelqu'un qui ne s'est pas lassé de demander, de chercher, de frapper. Donc, une première réponse, c'est de prier. Il faut prier. Il faut crier à Dieu. Et il faut persévérer aussi dans cette prière. Et puis au verset 5, nous voyons que Dieu lui répond. Alors, avant de lire la réponse de Dieu, que pensez-vous que Dieu va dire? Alors, je vous pose cette question parce que, souvent sans le réaliser, nous avons une idée préconçue de ce que Dieu va faire, ou au moins ce qu'il devrait faire. C'est-à-dire, quand on prie à Dieu, on lui demande d'intervenir, nous avons souvent déjà une idée de ce que ça sera. C'est-à-dire qu'il doit agir d'une certaine manière, qu'il doit régler nos problèmes d'une certaine façon. Nous avons déjà identifié ce qui sera la main de Dieu quand il intervient dans nos vies. Et quand Dieu répond, et Dieu seul sait combien de temps Habacuc a dû attendre pour avoir cette réponse, la réponse est étonnante et épouvantable. Dieu le dit lui-même, regardez le verset 5. « Jetez les yeux parmi les nations, regardez et soyez saisis d'étonnement et d'épouvante. » C'est comme si Dieu lui dit, « Ok, voici ma réponse, mais je te préviens. Ma réponse à ta prière va te remplir d'étonnement et d'épouvante, d'effroi et d'angoisse. » Alors on imagine le prophète en train de dire, « Attends, une seconde, Seigneur, tu réponds finalement à ma prière ?» Et ta réponse suscite encore plus d'angoisse. Je te dis, vaut mieux ne pas savoir ce qui viendra. Le Dieu qui est resté si longtemps sans agir, agit. Mais que fait-il? Regardez cette deuxième partie du verset 5. « Car je vais faire en vos jours une œuvre que vous ne croiriez pas si l'on la racontait. » Alors, beaucoup de personnes cherchent à savoir l'avenir. Mais est-ce que vous voulez savoir maintenant ce qui va se passer? Si on disait, voilà ce qui va se passer dans votre vie. ça va vous remplir d'épouvante et d'angoisse. Je crois que je serais tenté de me dire, de leur dire, ben, je préfère l'ignorance. J'ai demandé que Dieu vienne à mon secours, mais quand il est venu, les choses sont allées de mal en pis. Alors lisons donc la réponse de Dieu. Et vous allez voir pourquoi c'est épouvantable. Jetez les yeux, verset 5, parmi les nations, regardez, soyez saisis d'étonnement, d'épouvante. Je vais faire en vos jours une œuvre que vous ne croiriez pas si l'on la racontait. Voici, je vais susciter les Chaldéens, peuple furibond et impétueux qui traverse de vastes étendues de pays pour s'emparer de demeures qui ne sont pas à lui. Il est terrible et formidable. De lui seul viennent son droit et sa grandeur. Ses chevaux sont plus rapides que les léopards, plus agiles que les loups de soir. Et ses cavaliers s'avancent avec orgueil, ses cavaliers arrivent de loin, ils volent comme l'aigle qui fond sur sa proie. Tout ce peuple vient pour se livrer au pillage. Ses regards avides se portent en avant et il assemble des prisonniers comme du sable. Il se moque des rois et les princes font l'objet de ses railleries. Il se rit de toutes les forteresses. Il amoncelle la terre et il les prend. Alors son ardeur redouble. Il poursuit sa marche. Il se rend coupable. Sa force à lui, voilà son Dieu. Et ça c'est la fin de la réponse divine à ma prière. Encourageant. Nous voyons deuxièmement ici la réponse, pour dire la moindre des choses, inattendue de Dieu. Versets 5 à 11. Dieu dit, verset 6, voici je vais. Alors, pas de confusion ici, c'est Dieu qui est à l'œuvre. C'est l'œuvre divine, mais que fait-il? Je vais susciter les Chaldéens. Alors je vous rappelle que les Chaldéens sont nul autre que les Babyloniens, mais à ce moment la nation de Babylone est probablement encore très petite. Bon, c'est pas exactement quand il a écrit, mais en tout cas c'est avant qu'elle a la force d'attaquer Jérusalem. Et on voit que Dieu ne les a pas encore suscités. Mais la main de Dieu dans l'ascendance fulgurante de Babylone est incontestable. La main de Dieu. Il dit à la fin de verset 5, « Je vais faire en vos jours une œuvre. » Ce sera l'œuvre de Dieu, une œuvre divine. « Je vais susciter les Chaldéens. » Verset 6. Alors, vous savez que les Babyloniens sont un peuple païen. Ils ne connaissent rien de Dieu, mais c'est Dieu qui les suscite. Alors, ça c'est un fondement solide sur lequel nous devons placer nos pieds quand nous regardons l'avenir. Sommes-nous convaincus que chaque fois qu'un peuple prend l'ascendance, c'est Dieu qui le fait? C'est Dieu qui le fait? Qui s'appelle Hitler, Staline, qu'on lui donne le nom de Daesh. Le psaume 75 nous dit: car ce n'est ni de l'Orient, ni de l'Occident, ni du désert que vient l'élévation, mais Dieu est celui qui juge, il abaisse l'un et il élève l'autre. Alors je vous rappelle qu'au verset 3, nous avons vu que la société juive était décrite par les mots rappelés: iniquité, injustice, oppression, violence, querelle, discorde. C'était ça le problème qu'avait Habacuc. Il vivait dans une société qui se disait croyant en Dieu, qui était le peuple de Dieu, mais il y avait l'iniquité, il y avait l'injustice, il y avait l'oppression. Il disait: Seigneur, tu dois intervenir, t'as promis de juger, tu dois changer la situation. Mais notez comment Dieu lui-même décrit ce qu'il va susciter. La réponse de Dieu est de susciter... Je ne sais pas ce qui s'est passé... Ça va venir, ok. Et de susciter un peuple furibond et impétueux. Vous voyez ça au verset 6? C'est-à-dire, il suscite un peuple encore pire pour juger un peuple moins pire. Par exemple, en Israël, on faisait face à des juges qui rendaient, le verset 4 nous dit, des jugements iniques. C'est-à-dire, on passait par les juges, mais les juges, on pouvait les acheter, ils n'étaient pas honnêtes. Mais Dieu va susciter, regardez la deuxième partie du verset 6, un peuple qui s'empare des demeures qui ne sont pas à lui. C'est-à-dire, ils ne prennent même pas le temps de passer par le tribunal. Ils sont plus forts, c'est tout ce qui compte. Avant, c'était une société pleine d'oppression, de querelles et de discorde, mais maintenant, Dieu amène, verset 7, un peuple terrible et formidable, de lui seul vient son droit et sa grandeur. Parole de vie le rend ainsi, il décide seul de leur droit et de leur pouvoir. C'est-à-dire, ils n'ont même pas l'intérêt de se justifier. Vous n'aimez pas, ben tant pis pour vous, nous on est plus forts. On n'a même pas besoin de se justifier. Avant c'était la violence, mais maintenant ce sont des cavaliers qui volent, verset 8, comme l'aigle qui fond sur sa proie. C'est un peuple, verset 9, qui vient pour se livrer au pillage, qui vont assembler des prisonniers comme du sable. Vous voyez, dans presque chacun de ces domaines, Habacuc décrit sa société, Dieu répond par amener un peuple qui est pire dans tous les mêmes domaines. Donc, nous avons un croyant qui prie, Dieu est silencieux, et finalement Dieu répond, et voici la promesse. Et nous savons, car nous connaissons la suite de l'histoire, que c'est exactement ce que Dieu a fait. Exactement ça. Et maintenant, sa première difficulté n'est plus une difficulté, car elle a été remplacée par une plus grande difficulté. Avez-vous eu cette expérience? Vous souffrez à cause de quelque chose et puis tout d'un coup, ce n'est plus important parce que vous êtes face à une plus grande souffrance. Vous avez oublié l'autre souffrance parce qu'il y a quelque chose de pire qui a pris sa place. Alors n'oublions pas que notre bien-aimé Sauveur, Seigneur Jésus, il a connu cette même expérience. Sa prière dans le jardin de Gethsémané a été suivi par la croix. Luc 22 nous dit, 44, je vous lis ce verset, ça parle de Jésus ici. L'angoisse le saisit. Sa prière se fit de plus en plus pressante. Sa sueur devint comme des gouttes de sang qui tombaient à terre. Mais ces gouttes de sang sur son front sont devenus une fontaine de sang à son côté. La prière pressante de Jésus à son Père a reçu comme réponse l'abandon total du Fils par son Père. Alors Habacuc n'a pas connu une telle hostilité de la part de Dieu, et nous non plus, grâce à l'intervention de Jésus-Christ sur la croix qui a pris la colère de Dieu à notre place, nous ne connaîtrons jamais la colère de Dieu, jamais, si vous êtes en Christ. Mais c'est encore l'expérience des chrétiens de recevoir de Dieu en réponse à nos prières, parfois encore plus de troubles et plus d'angoisse. C'est encore l'expérience du chrétien. On prie et ce qui arrive est pire, à notre sens en tout cas, que ce qui était avant. Alors, les raisons pour cela sont multiples. Et nous ne pouvons pas les considérer tous. Nous savons quand même par la foi que toutes ces choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu et qui nous rend plus comme le Fils de Dieu, hein, pour que nous soyons semblables à son Fils. Mais je veux simplement considérer la réponse d'Habacuc à cette annonce. Donc, le juste face donc à l'action inexplicable de Dieu. On avait d'abord le juste face à l'inaction de Dieu, son silence, et maintenant, que va-t-il faire? Que va-t-il dire maintenant que Dieu répond à sa prière de cette façon étonnante? Que dire face à cette réponse impénétrable, incompréhensible, inconcevable même. Parce que face à l'inaction de Dieu, on ne voit pas la main de Dieu, on pourrait commencer à se poser la question, mais Dieu est peut-être faible. Il est bon, mais il est trop faible. Mais face à une action incompréhensible, on est tenté de se demander quoi ? Si Dieu est sage, ou même peut-être si Dieu est amour, est-ce que Dieu m'aime ? Et ce qui est en jeu dans toutes ces tentations, et vous savez ce que sont vos tentations, je n'ai pas besoin de vous raconter votre vie, je ne la connais pas, mais je suis sûr que vous connaissez ces temps de difficultés. Ce qui joue à chaque fois, c'est notre opinion de Dieu. Que pensons-nous de Dieu ? En fin de compte, c'est ça. Quelle est notre perception, image que nous faisons de Dieu ? Parce que nous vivons devant Dieu, il voit nos pensées, il voit nos réactions, et il voit ce qu'on pense de lui. Alors quand ces choses arrivent, la chose la plus importante, c'est quelle est l'idée qu'on est en train de faire, d'avoir sur Dieu lui-même. Alors, avec cela à l'esprit, notez la réaction d'Habacuc. Regardez le verset 12. N'es-tu pas de toute éternité éternel, Yahweh, mon Dieu, mon Saint ? Nous ne mourrons pas. Ô Éternel, tu as établi ce peuple pour exercer tes jugements. Ô mon rocher, tu l'as suscité pour infliger tes châtiments. Alors, si on comprend bien ce que Dieu vient de dire, la situation dans laquelle il se trouve, et sa réponse qu'il donne à Dieu, ça c'est tout simplement époustouflant. Et ce qu'il dit est exemplaire pour nous. Ça c'est un croyant qui croit malgré tout. Alors qu'est-ce qu'il fait ici ? Qu'est-ce que nous pouvons tirer pour nous-mêmes ? Eh bien, c'est évident, mais il prie de nouveau, n'est-ce pas ? Il se remet à la prière. C'est un peu comme si sa vie de prière est façonnée par ses troubles. Et il faut qu'on accepte nous-mêmes aussi que Dieu a façonné même nos jours pour façonner notre vie de prière. Vous dites, mais j'ai pas le temps, j'ai trop de choses. Ben, on connaît tous cette expérience. Mais peut-être si on avait à l'idée, à la pensée que Dieu façonne même ma vie pour façonner ma vie de prière. Dieu désire une communion perpétuelle, constante avec moi toute la journée. Et même les troubles, les difficultés qui arrivent dans ma vie sont là pour façonner ma vie de prière. Pour m'encourager à la prière. C'est ce que fait le prophète. Il voit sa société, il prie. Il voit que Dieu répond, il ne comprend pas, il se remet à prier. Et nous devons avoir cette perspective que les difficultés dans nos vies sont là pour façonner notre vie de prière, pour nous encourager à prier, pour nous aider après à intercéder pour les autres. Et Dieu, il peut tout rendre en harmonie, nos vies parfaitement, pour que chaque chose arrive pour notre bien, comme nous avons dit, comme dit Romains 8. Et deuxièmement, important la prière et important pour le chrétien, il remémore ce qu'il sait de Dieu. Il va se rappeler, il va repenser à ce qu'il sait. Et c'est là aussi que nous devons fuir. Nous devons fuir là au caractère de Dieu, ce qu'on sait de Dieu. Et notez ce qu'il dit de Dieu. Il parle de sa puissance. Il dit, n'es-tu pas de toute éternité ? Il appelle éternel ou Yahweh. C'est quelqu'un qui est au-dessus donc de ces nations, au-dessus de Babylone, au-dessus de ma société. C'est quelqu'un qui est vraiment éternel. Il parle de son caractère. Il dit, mon saint, il annonce que Dieu est saint, sans péché. Il souligne là aussi sa sagesse. Ça c'est remarquable, je trouve, pour lui de pouvoir le dire. Tu as établi ce peuple pour exercer tes jugements. Tes jugements. C'est-à-dire, les jugements de Dieu sont toujours bons. Et voici comment il va les exercer. des jugements parfaits et bons, il accepte que Dieu agit selon sa sagesse, qu'il peut même utiliser les païens babyloniens pour exercer de bons jugements. C'est-à-dire, il n'accuse pas Dieu. Il n'accuse pas Dieu. Il ne dit pas comme l'enfant dit à ses parents quand il ne reçoit pas ce qu'il veut, « Oh, t'es méchant !» Il n'a pas cette attitude envers Dieu. C'est pas qu'il a compris, je ne dis pas qu'il a compris la sagesse de Dieu. Il accepte. Et il parle aussi de son amour et de sa fidélité. Il dit, verset 12, « Nous ne mourrons pas. » Qui est quand même chose étonnante, parce que Dieu, dans ses mots, ne lui a pas donné de promesse de salut, que de jugement. Mais il connaît la fidélité de Dieu, il connaît l'alliance que Dieu avait faite avec son peuple. Donc il s'accroche, si vous voulez, à toutes ces promesses qu'il a reçues de Dieu. Il sait que Dieu ne peut pas changer, et il appelle, verset 12, « Ô mon rocher !» L'image de s'accrocher à Dieu est une belle image ici, parce que Dieu est son rocher. Le prédicateur Martin Lloyd-Jones a dit ceci, « Il n'y a rien de plus réconfortant et rassurant que de se rappeler que le Dieu que nous adorons est en dehors des fluctuations de l'histoire. Quand les problèmes contemporains nous oppressent et que nous nous demandons ce qui va arriver dans le monde, il, c'est-à-dire Dieu, a précédé l'histoire, il a créé même l'histoire, son trône est au-dessus du monde, est en dehors du temps, le Dieu éternel règne dans l'éternité. » C'est ça, en fait, qui nous donne du réconfort. Pas que nous avons un Dieu de 2016, mais que nous avons un Dieu éternel. Un Dieu qui est au-dessus et en dehors de ce monde. Qui peut intervenir, bien sûr, mais qui n'est pas pris dans l'engrenage de ce qui se passe dans ce monde. Il est au-dessus de toutes ces choses. Alors, finalement, c'est ce que nous savons de Dieu qui sera notre plus grand réconfort. Est-ce que vous êtes convaincus de cela? Parfois, on dit, mais si je pouvais savoir comment ça allait se passer, si je pouvais voir une issue... C'est pas ça qui va vous donner le plus grand réconfort. Le plus grand réconfort vient, pour le chrétien en tout cas, de ce que vous savez déjà de Dieu. Donc, n'allez pas chercher. La Bible dit qu'il nous donne une paix qui surpasse, quoi? Toute intelligence. Et la façon qu'elle est dite, peut avoir référence à la source. C'est-à-dire, une paix qui ne trouve pas sa source dans l'intelligence humaine. Parce que dès qu'on a un problème, dès qu'on a un souci, on veut savoir l'issue, on veut raisonner. Ah oui, mais si ça se passe comme ceci, comme cela, alors là, je suis soulagé. Mais la Bible dit qu'il nous donne une paix qui ne vient pas à travers notre façon de pouvoir tout raisonner. Dieu nous donne, et c'est une paix qui vient par la confiance dans une personne. L'enfant trouve une paix, une confiance dans ses parents, pas parce qu'il les a testés pour prouver qu'ils sont très intelligents, mais parce qu'il sait, il connaît leur caractère, il sait qu'il l'aime. Et c'est la même chose pour nous. Mais nous n'aimons pas parce que nous croyons grand, trop grand pour ça. Et non, Dieu veut que nous restions petits et enfants, que nous mettons sa confiance en lui et dans sa personne. Et puis, ce qu'il fait troisièmement, il porte de nouveau sa perplexité devant Dieu. Là, je trouve aussi réconfortant, parce que ils vont pas faire semblant que c'est si beau, la vie, quand on la vit par la foi. Bon, j'aime bien chanter ce chant, mais parfois, c'est pas très beau la vie quand on la vit par la foi. Et il admet que les choses sont pas si belles que ça. Et il porte dans sa perplexité devant Dieu. Il reconnaît que Babylone est l'outil dans la main de Dieu, mais c'est ceci qui crée la confusion dont il va parler au verset 13. C'est-à-dire, comment un Dieu saint peut-il utiliser un instrument si corrompu que Babylone pour exercer son jugement? Il accepte, il le dit, il accepte. C'est un Dieu saint, tes jugements sont bons, tu as choisi de faire ainsi, je l'accepte. Mais ça cause un problème quand même dans ma pensée. Le jugement de Dieu est censé apporter la justice, pas plus d'injustice. Regardez ce qu'il dit verset 13. Tes yeux sont trop purs pour voir le mal et tu ne peux pas regarder l'iniquité. Pourquoi regarderais-tu les perfides? Et tairais-tu quand le méchant dévore celui qui est plus juste que lui? Je parlais des Juifs au début de ce chapitre. Il dit, c'est vrai, ils sont pas bons, mais les Babyloniens sont pires. Pourquoi tu choisis quelqu'un de pire pour dévorer celui qui est plus juste? Traiterais-tu comme les hommes, comme les poissons de la mer, comme le reptile qui n'a point de maître, c'est-à-dire les gens qui ramassent les poissons pour les tuer? Après, c'est comme ça que tu vas nous traiter, Seigneur? Et puis il dit, verset 17, videra-t-il pour cela son filet et toujours égorgera-t-il sans pitié les nations? J'étais à mon poste et je me tenais sur la tour, je veillais pour voir ce que l'Éternel me dirait et ce que je répliquerai après ma plainte. Voici la grande question que se pose Habacuc, une question normale, verset 13, chapitre 1, verset 13, tes yeux sont trop purs pour voir le mal et tu ne peux pas regarder l'iniquité, pourquoi regarderais-tu les perfides? Et te tairais-tu quand le méchant dévore celui qui est plus juste que lui? Comment Dieu peut utiliser le plus méchant pour juger le plus juste? Ça, c'est la grande question de cette deuxième intervention d'Habacuc. Pourquoi gardes-tu le silence quand un méchant engloutit plus juste que lui? Et notez que ce thème du silence de Dieu rejoint, on a déjà entendu, n'est-ce pas? Rejoint ce qu'il a dit au verset 2. Tu ne réponds pas. On le retrouve ici. Regardez le verset 17. Videra-t-il pour cela son filet et toujours égorgera-t-il? C'est-à-dire, pour toujours. Et avec cette question toujours, nous revenons, en fait, au début de sa première prière, quand il a dit jusqu'à quand? Donc, notez ceci. Sa première prière commence exactement au même endroit où sa deuxième prière termine. Où il se pose cette question sur le silence de Dieu et jusqu'à quand, Seigneur? Est-ce ce sera pour toujours? Au verset 2, il la pose en relation aux injustices commises par ses concitoyens. Et au verset 17, il la pose par rapport au jugement que Dieu va envoyer sur ses concitoyens. La réponse de Dieu, c'est-à-dire la réponse de Dieu, le laisse avec les mêmes questions qu'il avait au début. Mais en dépit de cela, il n'a pas perdu sa foi en Dieu. Ça, c'est la foi dans la crise. Ça, c'est le culte. Nous rendons à Dieu un culte, une adoration dans le tumulte. Et nous devons accepter, comme Habacuc a dû le faire, que les voies de Dieu ne sont pas les nôtres. Que sa sagesse dépasse de loin la nôtre. Que nous n'avons même pas la capacité intellectuelle de concevoir tout ce qu'il est en train de faire. Donc c'est place à l'humiliation devant Dieu. Dieu ne pense pas comme nous. Si nous avons pu écrire notre vie, on aurait tous fait autrement. Alors à nous de juger que Dieu s'est trompé ou que nous nous trompons quand nous pensons que Dieu doit faire autrement. Il faut accepter que cela est encore l'expérience du chrétien, que la foi n'est pas la monnaie avec laquelle on achète des choses de Dieu. Que parfois, quand Dieu intervient dans nos vies, les choses semblent aller de mal en pis. La souffrance augmente, la confusion s'accroisse, les ténèbres augmentent aussi. C'est un peu comme Job, pour parler de quelqu'un d'autre, qui était à la fin du livre qui porte son nom. Vous savez, on arrive à la fin et il ne comprend toujours pas ce que Dieu faisait. Il ne comprend toujours pas. Dieu ne lui donne pas l'explication, même que nous avons dès le premier chapitre, de ce qui se passe au ciel. Sa seule consolation était ce qu'il savait de son Dieu. Et Dieu a conçu nos vies pour nous amener par ces moments à répétition où la seule consolation que nous avons devant nous est ce que nous savons de notre Dieu. C'est tout. Pensez à Élie qui était comme ça, là, un point très bas dans sa vie. Il se demande, mais pourquoi vivre? Pensez à Jean-Baptiste en prison. Il arrive à un point, pourquoi vivre? Toutes les âmes, toutes les femmes, tous les hommes, toutes les femmes de Dieu ont connu ces expériences. La seule consolation, on n'a même pas d'émotion. La foi n'est pas une émotion. Parfois, c'est la foi sans l'émotion. Nous devons croire à ce que nous savons de la bonté et de l'amour et de la sagesse de Dieu. Mais vous savez, nous avons encore plus de révélations concernant notre Dieu qu'avait Habacuc. Il dit, je sais que nous n'allons pas mourir parce qu'il pense à l'alliance que Dieu a faite avec Israël. Nous avons encore plus de révélations. À quoi s'accrocher et croire dans les temps difficiles? Nous voyons surtout ce qu'il a fait en Christ. Et nous savons que Dieu en Christ, il est pour nous, la Bible dit. Il est pour vous. Et si Dieu est pour nous, qui peut être contre nous? Et parfois ce qu'on voit nous dit le contraire, mais tout le monde est contre nous. Tout est contre moi. Et nous n'avons que notre foi dans ce que nous savons de Dieu. Alors est-ce que vous savez ce que Dieu a déjà fait pour vous en Jésus-Christ? Et s'il a déjà fait le plus grand travail en donnant son Fils à la mort pour nous sauver, s'il a déjà fait ça, ne fera-t-il pas tout ce dont nous avons besoin? Alors, je n'ai pas la réponse à vos problèmes. Habacuc, dans ce premier chapitre, n'a pas la réponse finale non plus à ses problèmes. Mais il connaît un Dieu qui est bon, qui est fidèle, qui est un rocher, et c'est à cela qu'il s'accroche, et c'est à lui qu'il se confie. Alors je vous encourage de lire, si vous avez le temps aujourd'hui, il n'y a que 3 chapitres, mais on va mieux profiter ensemble. Si vous connaissez déjà un peu le texte, je crois que vous allez mieux apprécier même les prédications si vous connaissez déjà commencer à formuler des idées sur ce qui est dit. Mais je veux noter la fin de ce livre. Il faut lire les derniers versets. Regardez chapitre 3, versets 17 à 19. Parce que je vais juste vous montrer où Habacuc va terminer. Et vous allez voir que même à la fin, il n'a pas toutes les réponses. Regardez verset 17. Car le figuier ne fleurira pas, la vigne ne produira rien, le fruit de l'olivier manquera, les champs ne donneront pas de nourriture, les brebis disparaîtront du pâturage, il n'y aura plus de bœufs dans les étables. Je vous assure que les prédicateurs de la prospérité ne lisent jamais ce verset dans leur réunion. Toutefois, verset 18, je veux me réjouir en l'Éternel. Je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut. L'Éternel, le Seigneur est ma force. Il rend mes pieds semblables à ceux des biches. Il me fait marcher sur mes lieux élevés. Ça, c'est le culte même dans le tumulte. Prions le Seigneur. Seigneur, nous voulons te crier comme a crié ce père de cet enfant possédé. Nous croyons, mais viens au secours de notre incrédulité. Augmente notre foi et utilise même l'exemple de ce prophète qui a vécu des expériences et des époques terribles pour nous encourager à marcher non par la vue, mais par la foi.